Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Elles s'appellent les Friges. Les JO de Paris 2024 ont dévoilé leur mascotte, deux bonnets phrygiens, un symbole républicain pur jus et en basket. Le sport, c'est aussi Didier Deschamps qui modifie sa liste pour le mondial. Presnel Kimpembe forfait, le défenseur Axel Dizazi est appelé, tout comme l'attaquant Marcus Thuram. Les Bleus partiront donc à 26 au Qatar. Dans l'actualité également, l'accord entre la France et le Royaume-Uni pour empêcher les traversées de la Manche par des migrants, la grève des laboratoires médicaux, et puis le carton des voitures d'occasion qui voit leur prix s'envoler, 2700 euros de plus en moyenne depuis le début de l'année. RTL vous le révélait ce matin, on y reviendra après le journal.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour le Pas-de-Calais visiter une usine de couches écolo. Petite révolution quand on sait que 90% des couches bébés achetées en France viennent aujourd'hui de l'étranger. À midi 20, RTL Midi, votre ville a plongé dans votre quotidien, celui d'un diabétique aujourd'hui, alors que la maladie touche près de 4 millions de Français. Le témoignage d'un malade qui a appris à vivre avec. À 12h40, retour sur le clash qui embrase le PAF et la classe politique. Le présentateur Cyril Hanouna et le député Louis Boyard qui s'invectivent, des insultes qui fusent, l'ARCOM saisit, le gouvernement qui réagit. Mais que risque la star de C8, on vous dira tout. Juste avant 13h, LVT midi, on parlera mode aujourd'hui quand la cravate se décline au féminin. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr. Qatar, allez-vous suivre la Coupe du Monde de football?
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs. J'ajoute le retour de l'enseignement des mathématiques obligatoire à la rentrée 2023. Louis Bonin, vous étiez bon en maths?
Ah oui. Oui, ouais.
1040 et 1040
c'est plutôt
1040 et 1040
2080
et 10
90
et 10
3000
non 2100
ah.
À tout de suite, 12h02.
Bah non, Louis, continuez malgré que vous êtes mauvais.
Ah bah voilà, oui,
pas très bon en maths mais meilleur en météo.
Ouais.
Bonjour, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi? Le
et
retour
bah
la pluie,
hein, c'est le retour de la pluie notamment dans les régions de l'ouest près de la Méditerranée également, et c'est une très bonne nouvelle.
Merci Louis, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Elles vont vous accompagner pendant au moins 2 ans. Les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été dévoilées ce matin. Alors on ne sait pas encore si elles deviendront aussi célèbres que Footix, la mascotte de la Coupe du Monde 98. Mais Isabelle Langer, il va falloir se familiariser avec ces deux mascottes, car elles sont deux, ce sont les Friges.
Alors les Friges, c'est en référence au bonnet phrygien comme celui de Marianne. Pour vous décrire à quoi ressemble la mascotte, c'est donc un grand bonnet phrygien rouge qui forme un personnage auquel on a mis deux grands yeux bleus, une bouche, deux petits drapeaux bleu, blanc, rouge en guise d'oreille et le logo Paris 2024 sur le ventre. Surtout, les Friges ont deux jambes et portent des baskets. Enfin, pas tout à fait, la Frige paralympique a une prothèse en forme de lame à droite. Alors vous allez me dire, mais qui va comprendre le symbole du bonnet phrygien? Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas seulement un symbole fort de liberté en France, mais aussi à l'étranger. À Rome, par exemple, il coiffait les esclaves affranchis. Il apparaît également sur de nombreux emblèmes dans les pays d'Amérique du Nord et du Sud. À Paris 2024, les Friges ont pour mission de démontrer aux Français que le sport peut tout changer, qu'il mérite d'avoir une place au premier rang dans la société. Vous pourrez rapidement voir ces mascottes sur les différents grands événements sportifs et culturels en France. Et puis une mascotte a été déclinée également en peluche.
Deux choses, Isabelle, parce que je suis en train de les découvrir. Le mot frige, vous trouvez que c'est un joli mot?
Écoutez, c'est une question qui a été posée aux organisateurs.
Oui, enfin, c'est laid.
Pour savoir si
une frige, d'abord, c'est un mot qui n'existe pas et on pense à autre chose. Pour vous dire, les friges, tout le monde pense à la même chose. Je ne le dirai pas d'ailleurs. Mais c'est un drôle de mot quand même.
L'esprit mal tourné quand
non,
même.
Non, je suis très étonné.
Mais moi, elle me plaise bien en tous les cas. Plus que
oui,
Footix,
je trouve que la mascotte est pas mal. Je suis d'accord avec vous. Mais le nom, les friges. Ça vous plaît, mesdames? Ouais. Je vous pose la question.
Oui, moi aussi, j'étais un peu dubitative avec vous. Je vous le cache
pas. Mais elles sont mignonnes, quoi.
Oui,
après,
mais ce nom, les friges, vous trouvez que c'est bien ou pas? Bon, moi, on en parlera avec les auditeurs.
Voilà. On va laisser les auditeurs décider. Merci beaucoup.
C'est un joli cadeau de Noël, en tous les cas, en mascotte, en peluche. Allez, au revoir.
Elles ont des baskets, hein?
Ouais, elles sont très mignonnes. Et une lame, hein, en guise de prothèse pour la jambe droite pour la paralympique.
Dieu nous prothèse.
Vous le disiez en titre, on va parler football. Maintenant, Didier Deschamps a appelé deux nouveaux joueurs pour le Mondial ce matin, à 8 jours maintenant du premier match de l'équipe de France face à l'Australie. Le sélectionneur appelle le monégasque Axel Disasi pour pallier le forfait de Presnel Kimpembe, le joueur du PSG, pas suffisamment rétabli après une blessure à un tendon d'Achille. Les Bleus qui partiront finalement à 26 au Qatar, puisque Didier Deschamps a aussi décidé de convoquer l'attaquant Marcus Thuram.
Ce sera très difficile de faire des analyses médicales dans les jours qui viennent. Les laboratoires sont en grève, au moins jusqu'à mercredi.
Avec un taux de participation record, 95% des labos sont grévistes. Illustration de la colère de la profession après l'adoption du budget de la Sécu et d'un sérieux coup de rabot les concernant, Agathe Landais. On leur demande d'économiser 250 millions d'euros.
Oui, 250 millions tous les ans et ce jusqu'en 2026. Au total, ça permettrait d'économiser plus d'un milliard d'euros à la sécurité sociale. Mais de telles coupes budgétaires auront des conséquences. Alerte en tout cas ce matin Aurélie François, directrice générale des laboratoires Eurofins.
Le rabot aveugle que compte nous imposer le gouvernement aura pour effet de nous priver de notre capacité d'investissement et de grever directement notre budget de fonctionnement qui nous permet de maintenir un maillage territorial large. Le gouvernement fait état dans la presse de chiffres tronqués, voire manipulés, dans le seul but de nous faire passer pour des profiteurs de guerre.
On assiste donc là à une bataille de chiffres avec d'un côté l'exécutif pour qui les labos ont vu leur chiffre d'affaires bondir de 3 milliards d'euros pendant la pandémie et qui du coup peuvent bien faire un petit effort. Et de l'autre, les biologistes qui contestent eux ce chiffre. Selon eux, ça ne prend pas en compte leurs charges, les recrutements qu'ils ont dû faire, les barnums ou les drives qu'ils ont installés pour tester jour et nuit, ou encore les machines et tout le matériel qu'ils ont dû acheter à leurs frais.
Merci Agathe Landais.
Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL le témoignage de Pascal. Son mari, Guy, avait interpellé le chef de l'État sur la question de l'euthanasie.
C'était le 31 mars dernier en Charente-Maritime. Son veuf, Pascal, raconte.
Guy l'a interpellé en lui disant qu'il avait la maladie de Charcot et qu'il se désolait d'être obligé de quitter la France pour pouvoir partir dignement et sereinement. Ils ont été 30 secondes, une minute sans rien dire, les yeux dans les yeux. Je pense que ça l'a remué un petit peu. Et après, il a dit voilà, qu'il comprenait bien le problème, mais que lui, il était plutôt favorable à un modèle à la belge, quoi.
Alors, depuis que Guy est décédé, euthanasié en Belgique, justement. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
La Convention citoyenne sur la fin de vie débutera dans 3 semaines. Un débat de société peut-être le plus sensible.
Oui, et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron zigzague autant sur ce dossier. Fin mars, en pleine campagne présidentielle, le chef de l'État était allé plus loin que jamais. Il avait dit vouloir avancer vers un modèle à la belge, le suicide assisté pour les personnes atteintes de maladies incurables. Mais depuis son élection, il est urgent d'attendre. Le chef de l'État temporise avec la création de cette convention citoyenne. Il se réserve le droit de ne pas honorer sa promesse d'un nouveau texte d'ici la fin 2023. Emmanuel Macron veut éviter d'ouvrir un nouveau front politique alors que le sujet divise sur tous les bancs, ou presque. Sa majorité d'abord, les députés avaient déposé l'année dernière plusieurs textes sur une aide active à mourir contre l'avis de l'Élysée. À l'époque, l'exécutif avait organisé une séance de débat interne pour tenter de purger les désaccords. Mais dans l'opposition également, Marine Le Pen veut s'en tenir à la loi Claeys-Leonetti 2016, tout en renforçant les services de soins palliatifs. Mais certains de ses députés veulent aller plus loin. Un désaccord rare au RN où on a peu l'habitude de contredire la patronne. Seule la gauche affiche une unanimité en faveur d'un nouveau texte sur la fin de vie. La NUP met en avant l'état de l'opinion. 92% des Français se disent pour une légalisation de l'euthanasie.
Marie Mollet du service politique de RTL. Un nouvel accord de coopération entre la France et le Royaume-Uni signé ce matin pour tenter d'enrayer les traversées de la Manche par des migrants, toujours plus nombreux à tenter de leur chance. Les Britanniques s'engagent à verser 72 millions d'euros. En contrepartie, la France s'engage à mobiliser 350 policiers et gendarmes supplémentaires sur les plages. On y revient dans le journal de midi et demi. Notre journaliste Franck Hanson a passé la nuit avec les associations qui recueillent chaque jour les migrants qui tentent la traversée sans y arriver. Et puis l'image de la matinée à l'étranger, c'est certainement celle de Volodymyr Zelensky qui chante l'hymne national ukrainien à Kherson, où le drapeau bleu et jaune est à nouveau hissé après le retrait des troupes russes.
RTL Midi. Un coup on fait des maths, un coup on n'en fait plus. Les mathématiques sont de retour dès la rentrée pour tous les élèves de première. Quelle nouvelle !
C'était l'un des aspects les plus décriés de la réforme portée par Jean-Michel Blanquer. La suppression des mathématiques pour les lycéens. qui n'ont pas choisi cette spécialité à partir de la première. Volte-face donc, Marie Guerrier. Dès septembre, même ceux qui n'ont pas la bosse des maths vont devoir s'y coller.
Oui, 1h30 par semaine, imposée donc aux élèves qui n'ont pas pris la spécialité maths. Alors pourquoi faire des maths utiles à la vie sociale et professionnelle, statistiques, probabilités, traitement de données? Ça va ressembler en fait au programme de l'option maths proposé cette année en première générale. Et donc vous l'avez compris, à partir de septembre prochain, ce sera obligatoire, évalué dans le cadre du contrôle continu. Ensuite, en terminale, les volontaires pourront poursuivre avec l'option maths complémentaire et les autres rangeront leur calculette.
Et c'est pas en amont surtout qu'il faudrait régler le problème, Marie ?
Alors le problème des maths, eh bien le ministère annonce un programme de remise à niveau en seconde pour les 20 à 25% d'élèves en difficulté. Et plus tôt encore au collège, à l'entrée en 6e, des groupes de niveau à effectifs réduits à partir de la rentrée prochaine, avec un programme de consolidation pour ceux qui n'ont pas le niveau et un programme d'approfondissement pour les élèves plus avancés. Vous voyez, un double objectif, réconcilier avec les maths ceux qui sont fâchés et porter vers l'excellence ceux qui ont le plus d'aptitude. Enfin, en primaire, là, ça va passer par une formation spécifique des enseignants. 30% pour l'instant l'ont reçu.
Ce qui peut étonner, c'est qu'il y a 5 ans, on faisait le contraire.
Ah, bah, c'était un choix à l'époque. Voilà.
On en fait là, un autre aujourd'hui.
Non, magnifique. Mais oui, mais en 5 ans, on change, quoi. C'est ça qui peut étonner.
Là aussi, il y a du changement côté météo.
Il est beau hein, aujourd'hui.
Alors, c'était très bien jusqu'à ce que vous rajoutiez aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Un peu il est élégant, c'est ce que je veux dire. Il était en costume 3 pièces.
Ça, c'est pour annoncer la pluie. C'est pour que ça passe mieux. Voilà. La pluie qui revient par l'ouest. Elle est déjà là entre les Pyrénées et la Normandie. Cet après-midi, on la retrouvera du Massif central à l'Île-de-France. Et puis, en fin de journée, elle arrivera sur les frontières de l'Est. Alors, la première perturbation d'une longue série est un peu moins active que les suivantes. Donc, ça passera assez vite quand même. De la pluie attendue également dans le Languedoc. Bref, il y en aura pour tout le monde de toute façon à un moment ou à un autre. Quelques éclaircies reviendront dans l'ouest. Et puis côté température, eh bien, nous serons entre 13 et 15 degrés cet après-midi dans la moitié nord. Ça reste au-dessus des moyennes de saison, même si ça baisse. Et 15 à 19 degrés dans le sud, où pour la première fois depuis très longtemps, on devrait rester sous les 20 degrés quand même.
Merci Louis.
RTL Midi, un jour chez vous.
C'est notre Tour de France quotidien, chaque jour l'info, plus près de vous.
Et aujourd'hui, direction le Pas-de-Calais à Billémines, près de Lens. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Une ancienne cité minière dans laquelle une usine de couches écologiques vient de démarrer son activité. Petite révolution, puisqu'on sait que 90% des couches bébés achetées aujourd'hui en France viennent de l'étranger et que ça reste un produit souvent décrié en termes de pollution. Franck, vous êtes allé visiter l'usine.
Oui, je vous emmène dans cette zone industrielle toute neuve, au pied des terris miniers. Les bâtiments Nature Opéra s'étendent sur l'équivalent de 3 terrains de football. À l'intérieur, des machines avec d'immenses bandes en fibre naturelle pour assembler ces changes de bébés.
On a une cadence, une capacité machine de 800 couches par minute, de la taille 3 jusqu'à la taille 6.
Dans ces immenses entrepôts, l'air est recyclé pour chauffer l'hiver. On compte près d'une quarantaine de salariés pour l'instant. Éric Allary, le directeur du site.
Une couche, qu'est-ce que c'est ? C'est un tampon absorbant. Le tampon absorbant, il est composé de pâtes de papier défibrées. C'est sur une seule machine où on vient dérouler les différentes matières en couches qu'on vient plier, compacter et mettre en sachet. On va avoir le souci de sourcer des matières le plus proche possible en fait, du lieu de production.
Ces barrières anti-fuite sont donc destinées aux grandes surfaces et aux magasins bio.
Cette usine a donc des engagements environnementaux très forts.
Oui, en matière de consommation d'énergie notamment, les rejets dans l'air ou l'eau sont scrupuleusement analysés. Les matières utilisées se veulent le plus naturel possible. Jennifer van der Oderlingen est responsable qualité et mère de famille, donc concernée.
Ici, en fait, on va retrouver principalement de la cellulose de bois qu'on va retrouver, oui, dans la couche et qui permet justement l'absorption. On garantit que ce sont des produits sans substances nocives, donc il n'y a pas de lotion, parfum, de parabènes, de chlore. Je n'avais pas le même regard critique en étant maman.
Franck, la couche bébé, bon, c'est un marché qui évidemment connaît pas la crise. Les patrons de cette entreprise, ils ont donc des ambitions pour leur fabrique du Nord.
En effet, cette usine vise 200 millions de couches par an, mais il s'en vend près de 4 milliards en France pour nos petits bouts. Autant dire qu'il y a du potentiel à Bully-les-Mines, selon Kylian Onel, l'un des fondateurs de la marque Tidou, qui tient à des prix abordables.
On ne trouvera qu'un écart assez limité dans les prix qui sont pratiqués par nos revendeurs. L'enjeu, voilà, d'une réindustrialisation et d'une production made in France est de taille. Une énorme marge de progression dans les couches écologiques. Il y a également de la place pour peut-être d'autres machines pour produire davantage.
Et Nature Opéra, qui devrait renforcer ses équipes, est toujours en phase de recrutement pour ses couches écolos.
Merci beaucoup Franck Hanson dans le Pas-de-Calais, donc pour RTL.
Et les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais la couche bébé jetable, c'est très récent. Hein. C'est à la fin des années 50.
C'est un récent relatif. Donc.
Oui, récent relatif. En revanche, ce qui est récent relatif également, c'est que les voitures d'occasion coûtent plus cher que les voitures neuves, si j'ai bien compris. Notre ami Bourou va nous en parler dans une seconde. Ça peut surprendre, mais c'est intéressant évidemment. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Vous allez être content de votre bagnole, là ? Ah oui, c'est bien, faut pas être difficile. Ça doit pas être cher, quoi. Ah, quand même ? Ah ben, ça m'emmerde pas, hein. Un marquis, il trouve des couillons pour payer, ou quoi ?
Coluche dans l'autostoppeur, car RTL vous le révélait ce matin, le prix des voitures d'occasion a bondi depuis le début de l'année. C'est le résultat de l'étude réalisée par NGC Data pour le site internet de la centrale. Des millions d'annonces ont été passées au crible et la hausse est impressionnante, 2700 euros en moyenne. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste auto ici à RTL. Bon, dites-nous, qu'est-ce qui se passe ?
Bon, on connaît les causes de cette inflation. Un délai de livraison plus long pour les voitures neuves avec, vous savez, la crise des semi-conducteurs. Exemple, Pascal et Céline, si vous commandez une voiture aujourd'hui, vous avez une chance de l'avoir pour Noël, mais Noël 2023. Un an d'attente, voire plus pour certains modèles, c'est toujours tendu. Résultat, plutôt que d'attendre, les acheteurs se précipitent sur les modèles d'occasion récents de moins de 2 ans.
Ça veut dire que les restrictions annoncées, notamment en termes de pollution, ne freinent pas plus que ça le marché de l'occasion.
Un chiffre, le diesel qui voit ses tarifs en hausse de 8% depuis janvier et plus 12% en 5 ans. La voiture diesel est toujours recherchée, certes, alors pas dans les grandes villes, mais ailleurs, le diesel reste le roi du pétrole avec tout de même 60% des transactions.
Ça veut dire que les restrictions annoncées, notamment en termes de pollution, ça freine pas plus que ça le marché de l'occasion, Christophe ?
Non, c'est ce que je viens d'expliquer, mais de toute façon, les voitures sont tellement chères aujourd'hui que la plupart des consommateurs vont vers des voitures de plus en plus âgées, sur des forts kilométrages, 60 000, 80 000 kilomètres, on n'hésite plus à acheter des voitures qui sont très âgées. Il y a plus 14% de demandes pour des autos qui ont beaucoup roulé, ça c'est vraiment, vraiment une nouveauté. Et puis, certains, évidemment, sont prêts à payer le prix fort pour avoir un véhicule rapidement. D'ailleurs, on trouve sur Internet certains modèles, comme des Dacia, qui se vendent plus cher en occasion que neuve.
Il y a des voitures qui s'arrachent plus que d'autres.
Alors, les Dacia, vous avez aussi...
Dacia, c'est quel prix, une Dacia ?
Dacia, c'est 16 000 euros. Donc,
c'est les premiers prix, c'est plutôt bas de gamme ou moyenne gamme ?
C'est les voitures les moins chères. Donc, d'accord. Vous avez la Stepway, qui est la voiture, la Dacia Sandero, qui est la voiture la plus vendue en France. Ensuite, vous avez les Clio, les 208, qui sont extrêmement recherchés. Et ce qui est intéressant dans l'enquête, c'est que, par exemple, on s'aperçoit qu'on va de plus en plus vers des voitures âgées, puisque c'est la 207 qui était produite en 2006. Mmh. Les prix ont augmenté de 50%. Donc, on va rechercher des voitures de plus en plus anciennes.
Qui fabrique Dacia ?
Dacia, c'est Renault. Ça appartient à Renault.
Donc, c'est français.
D'une certaine façon.
Achat entre particuliers, les concessionnaires ?
Les deux. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que de plus en plus de loueurs et même d'entreprises vont acheter aujourd'hui des voitures d'occasion. Donc, ce qui fait que les prix augmentent de plus en plus.
Je précise évidemment que si vous nous regardez en vidéo, le studio n'est pas réfrigéré, mais Christophe Bourreau a un peu froid.
J'ai un peu froid, voilà.
Vous avez mis la petite écharpe aujourd'hui et la doudoune. Merci en tout cas.
J'ai pas mis la clim.
Faut pas mettre la clim. Dans les voitures, faut pas mettre la clim. Hein. C'est pas
Non, c'est déconseillé.
Ça attaque les...
Il faut le mettre doucement.
Oui, ça attaque les voies respiratoires.
Voilà, on va le dire comme ça. Il est 12h20.
On va parler santé justement.
Eh bien justement, on va parler santé et du diabète.
Exactement.
À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Lidl réélu. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète.
Plus de 460 millions de personnes atteintes dans le monde, un chiffre qui pourrait doubler en 2045. En France, on compte près de 4 millions de malades. Bonjour, Alban Orsini.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez écrit « Merci pour ce diabète », c'est aux éditions Hugo Poche, livre dans lequel vous donnez plein d'infos sur la maladie et dans lequel vous racontez aussi votre parcours, votre quotidien de diabétique, la manière d'abord dont vous avez découvert que vous étiez malade. Racontez-nous pour alerter peut-être sur les signes auxquels il faut être attentif.
Alors effectivement, il y a des signes qui sont différents par rapport au type de diabète que l'on déclare. Pour faire simple, il y a deux types de diabète principaux, le diabète de type 2, le diabète de type 1. Le diabète de type 2, on le découvre généralement vers l'âge de 40-50 ans. Lors d'une prise de sang, on n'a pas forcément de signes avant-coureurs. Donc c'est au cours d'une prise de sang qu'on se rend compte qu'on a un taux de glycémie qui est élevé. Le diabète de type 1, c'est totalement différent. Il touche 6% de la population environ. Par contre, là, c'est une explosion, c'est-à-dire qu'en quelques mois, on perd énormément de poids. J'ai perdu également beaucoup de poids. On boit énormément et puis on atterrit très vite aux urgences. Donc voilà, ce sont deux
et quel
deux
que soit l'âge. Différentes.
Le diabète de type 1 se déclare plutôt, oui, enfant. Après, il y a un deuxième pic vers la trentaine, mais on peut le déclarer à n'importe quel âge, effectivement.
Vous êtes donc diabétique et votre rythme de vie, votre alimentation ne sont pas du tout en cause. On est loin du cliché de la personne diabétique parce que trop gourmande.
Exactement. C'est vrai que le diabète est une maladie qui, comme beaucoup de maladies, génère beaucoup de clichés et de préjugés. Et justement, écrire sur le sujet permet de faire un peu bouger les lignes. On a vraiment effectivement cette idée du diabétique qui mérite ce qui lui arrive parce qu'il a mangé trop de hamburgers, de frites toute sa vie et qu'il n'a pas assez fait de sport et que c'est bien fait pour lui. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est effectivement en partie pour le diabète de type 2 lié à la sédentarité et à la nourriture, mais il y a une forte part d'hérédité. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui complexifient un petit peu les causes de la maladie.
Vous racontez dans ce livre la difficulté d'accepter la maladie, de voir que sa vie bascule, qu'on perd une part de légèreté.
On perd une part de légèreté, on gagne aussi d'autres choses, comme par exemple apprendre à mieux connaître son corps, mieux le comprendre. C'est important quand on est diabétique, quand on a des traitements parfois un peu compliqués avec de l'insuline, des lentes, des rapides, enfin il y a plein de choses complexes. C'est de découvrir son corps est une machine assez dingue, formidable, et qu'on n'écoute pas assez.
Alors au quotidien, est-ce que c'est intéressant d'être concret? Il est par exemple 12h25, depuis que vous êtes levé, quelles sont les contraintes qui sont liées au diabète que vous avez dû mettre en place?
Alors moi je suis diabétique de type 1, donc je ne sécrète absolument pas d'insuline, donc c'est le diabète qui est peut-être le plus contraignant en termes de charge mentale. Concrètement, je porte une pompe à insuline qui me délivre de l'insuline tout au long de la journée et un capteur sur le bras, les deux sont connectés
donc
en Bluetooth.
Donc là vous l'avez en ce moment?
Exactement, oui, je peux vous montrer très rapidement, c'est un petit boîtier que j'ai à la taille et qui m'apporte de l'insuline constamment. Donc toute ma journée je vais contrôler ma glycémie qui apparaît sur mon boîtier.
Là
sur
vous
mon
pouvez
boîtier.
La contrôler par exemple?
Là elle est contrôlée, je peux vous dire que je suis 1,37 parce que je suis un petit peu stressé, donc ma glycémie augmente un petit peu.
Et 1,37, c'est trop ou pas assez?
C'est un petit peu au-dessus de ce que je devrais avoir, qui est plutôt 1,20.
Et si vous n'aviez pas cela, qu'est-ce qui se passerait?
Alors, si je n'ai pas d'insuline, concrètement, j'ai quelques jours devant moi et sinon, je pourrais mourir. En fait, il y a près de 100 ans, les diabétiques de type 1 n'étaient pas. On ne vivait pas avec un diabète de type 1. Voilà, donc il faut le savoir, c'est des progrès de la médecine qui font que désormais on vit grâce aux insulines de synthèse, mais au début du siècle dernier, on ne survivait pas d'un diabète de type 1.
De l'importance de regarder les signes et d'aller consulter assez vite s'ils apparaissent sans laisser le temps à un coma de s'installer.
Bien sûr.
Rapidement, si vous aviez un message à faire passer, justement aujourd'hui en témoignant, ce serait lequel? Un quotidien qui est envisageable malgré tout?
Oui, j'ai l'habitude de dire qu'on vit très bien avec un diabète, dans les pays occidentaux notamment, c'est plus compliqué dans certains autres pays, mais voilà, ça demande quelques ajustements, et puis parfois, il y a des jours où c'est plus simple que d'autres, donc...
Oui, et puis il faut faire de la prévention, c'est-à-dire que vous vous dites peut-être que vous n'allez pas voyager dans n'importe quel pays, que vous faites attention, que si par exemple, si votre matériel tombe en panne...
Exactement.
Faut mieux être à Paris que dans un coin reculé du monde.
C'est une charge mentale constante, c'est-à-dire qu'au travail, il faut avoir des cathéters, de l'insuline, du glucagon, etc. Si jamais il y a un pépin, quand on est en réunion, là par exemple, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un pépin. Donc quand on part à l'étranger, effectivement.
Mais combien de gens sont équipés comme vous? Parce que moi, je découvre cela.
La pompe à insuline, beaucoup, beaucoup.
C'est-à-dire
pas les chiffres
combien
exacts.
Il y a 4 millions. Dites-vous.
En France, on est 250 000 diabétiques de type 1. Je pense qu'on est. J'ai pas les chiffres de pose insuline, mais je pense qu'on est plusieurs dizaines de milliers à porter une pompe à insuline constamment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les progrès
depuis
sont
combien
assez,
de temps elles existent ces pompes?
Les pompes à insuline, ça a bien 15 ans, je pense, d'existence. Et les premières pompes à insuline étaient des sacs à dos. C'était hyper impressionnant.
Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui parce que si on ne le sait pas, on ne remarque pas
c'est
effectivement que vous
sûr.
Êtes équipé.
C'est ça.
Merci beaucoup, Alban Orsini. Je rappelle le titre de votre livre chez Hugo Poche. Merci pour ce diabète, journal scientifique et humoristique. C'est important de le dire parce
exactement.
Que ce n'est pas du tout plombant comme lecture d'un diabétique. Merci d'être venu
merci
aujourd'hui
à vous.
Sur RTL.
Au revoir.
Dans quelques instants, le retour de l'info avec Céline à 12h30.
Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h31.
Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi.
L'heure de votre grande édition, Céline.
Un accord signé ce matin entre la France et le Royaume-Uni pour empêcher la traversée de la Manche par les migrants toujours plus nombreux à tenter leur chance. Des migrants recueillis chaque nuit sur les plages françaises par des associations. Reportage dès le début du journal. À suivre également la ruée dans les stations-service, le G20 à Bali. Un nouveau coup dur pour l'équipe de France. Kimpembe est forfait. Deschamps appelle donc Axel Disasier, Marcus Thuram. Les Bleus partiront à 26 au Qatar. À 12h40, vous reviendrez sur le clash qui a embrasé le PAF et la classe politique, des insultes qui fusent entre Cyril Hanouna et le député insoumis Louis Boyard. Mais que risque le présentateur de C8? On fera le point avec les journalistes de la rédaction juste avant 13h. LVT Midi, votre rendez-vous culture, avec le retour de la cravate. Aujourd'hui, on va parler mode, la cravate, oui, mais chez les femmes. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos du mondial au Qatar. Allez-vous suivre cette Coupe du Monde de football?
32-10, appelez-nous. Tous ces sujets pour les auditeurs à partir de 13h.
La météo à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Louis Bollin.
Oui, avec la pluie qui revient, elle est déjà dans l'ouest, mais elle va traverser toutes les régions d'ici la fin de journée.
Merci Louis, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Alors que l'on a beaucoup parlé ces derniers jours des migrants de l'Ocean Viking recueillis en Méditerranée, c'est désormais sur d'autres côtes que les autorités veulent durcir les contrôles. Celle de la Manche, la France et le Royaume-Uni ont donc signé ce matin un nouvel accord de coopération pour lutter contre l'immigration illégale. Les Britanniques mettront 72 millions d'euros sur la table pour que les Français renforcent les contrôles. 350 policiers et gendarmes de plus. Franck Hanson, vous avez passé pour RTL la nuit avec des associations qui chaque jour recueillent donc ceux qui ont tenté cette traversée.
Oui, des migrants qui se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes quand la traversée échoue. Les bénévoles de l'association Utopia sont en route depuis 3h du matin quand ils croisent à l'entrée de Boulogne un groupe de Soudanais emmitouflés dans des couvertures de survie prises en charge par des pompiers. Leur embarcation a chaviré.
On est tombé sur un groupe de personnes qui étaient avec les pompiers, une famille qui est partie.
Thomas Chambon, coordinateur de l'association.
Tout le monde est complètement trempé. Donc là, on leur donne des habits secs, du thé, de la nourriture et de l'eau. Bon, au moins qu'ils puissent continuer leur route parce qu'apparemment il n'y aura pas de mise à l'abri. C'est quasiment tous les jours quand il y a des conditions climatiques qui font que les gens essayent de traverser.
Plus tôt dans la nuit, d'autres migrants kurdes irakiens errent sur les routes du Dunkerquois. Certains portent encore leur gilet de sauvetage, leur seul bagage.
C'est des bateaux chinois merdiques qui ne sont pas du tout prévus pour, et plus t'as d'affaires, plus c'est lourd, plus c'est dangereux. Donc les consignes, c'est non, tu prends le minimum.
Une adolescente de 14 ans est avec ses parents. Plus loin, une famille avec un enfant de 3 ans. Les bénévoles essayent de leur trouver une solution.
Ils étaient dans les dunes depuis 2 jours. Apparemment, ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. Donc là, ils essayent de retourner au campement parce qu'ils n'ont pas pu partir cette nuit.
Ces exilés refoulés dans le froid retenteront de toute façon le passage en mer dès que les conditions seront réunies.
Franck, on le disait dans cet accord, il y a un volet pour renforcer les contrôles. Vous, cette nuit, vous les avez vus, les forces de l'ordre ?
Oui, notamment à Waplage, près de Dunkerque, des gendarmes qui ont réussi à confisquer un bateau pneumatique. Parfois, ils les détruisent pour empêcher le départ. Le dialogue est souvent tendu avec les associations. Depuis plusieurs mois, les patrouilles de forces de l'ordre se multiplient avec des véhicules tout-terrain dans les dunes, des drones, mais pas possible d'être présent sur les plus de 100 km de côte.
Franck Hanson pour RTL.
Elles ont été surnommées les découpeuses. 2 femmes sont jugées à partir d'aujourd'hui aux assises de Seine-Maritime à Rouen.
Soupçonnée d'avoir tué puis découpé le corps de Slimane Amara, le compagnon de l'une d'entre elles. C'était en 2018. Anne Lehenaf, vous suivez ce procès pour RTL avec, dans le box, des accusés, 2 femmes donc, que tout semble opposer.
Oui, l'une est brune, habillée en noir, solide, elle parle sans émotion apparente. L'autre, blonde, frêle dans sa veste gris clair, en larmes dans le box. Oui, je reconnais les faits. Céline éclate en sanglots. Je regrette sincèrement. L'huissier lui apporte une boîte de mouchoirs. Jessica, la brune, dit d'une voix très calme. Je reconnais les faits, puis se rassoit devant la salle bondée. Ensemble, elles ont construit un scénario pour se débarrasser du mari de Céline, décrit comme violent. Jessica a acheté les outils, les bâches commandées par Céline. Un soir de novembre 2018, elles ont égorgé Slimane et l'ont démembrés dans la cave. Le résumé de la scène, lu par la présidente, est difficilement soutenable. Elles ont tout fait pour rendre le corps impossible à identifier, en arrachant la peau de ses doigts ou en versant de l'acide sur son visage. Puis elles ont dispersé son corps dans la Seine. Mais lorsque les gendarmes sont venus sonner chez Céline 5 jours plus tard, elle a tout de suite avoué. Pourquoi, après tant de préparatifs macabres, quelle est la responsabilité de chacune? La cour a la semaine pour y répondre.
Compte rendu d'audience signé Anne Lehna pour RTL.
RTL Midi.
Les scènes sont les mêmes qu'au plus fort de la grève dans les raffineries. Des files d'attente dans les stations-service. Mais cette fois, c'est la faute à la ristourne.
Oui, car demain soir à minuit, le prix du carburant va mécaniquement augmenter. La ristourne du gouvernement passera en effet de 30 à 10 centimes le litre. Dans le même temps, celle de Total Energy passera de 20 à 10 centimes. Et donc, la facture sera plus salée pour les automobilistes. Ce qui explique cette ruée à la pompe que vous avez pu constater, Clément Théara.
Oui, Yuba y est presque. Avachi au volant de sa voiture, cet artisan patiente depuis 30 minutes dans la file pour faire le plein d'essence.
Il y a de l'essence nulle part, donc je me suis arrêté, j'ai fait demi-tour et j'ai fait la queue. Je pensais qu'ils allaient laisser l'aide de l'État et l'aide de Total. Avec tout l'argent qu'ils ont, je pense qu'ils auraient pu nous faire plaisir au moins, vu que moi je travaille. Si j'ai pas d'essence, je travaille pas.
Eric, arrivé plus tôt, a déjà le pistolet en main, mais lui semble résigné.
C'est la quatrième pompe à essence que je fais ce matin là. Partout c'est vide, partout il n'y a rien, il n'y a que du gasoil. On est sans arrêt pris dans les taux, il faut qu'on paye, donc c'est malheureusement comme ça. Mais bon, c'est de l'argent qu'on ne pourra pas utiliser autrement. Cette année, il va falloir se tirer la ceinture. Pour les fêtes et pour les mois à venir.
Le temps de faire son plein, Eric a pu constater la file de voitures s'allonger derrière la sienne. Et il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde.
Clément Théara pour RTL. L'inflation se tasse, c'est l'enseignement de notre panier RTL. Ce mois-ci, vous le savez, tous les mois, RTL relève le prix de plusieurs produits de consommation courante. Légumes, steak haché, huile. Alors certes, ce panier augmente, mais seulement de 0,8% ce mois-ci. C'est la hausse la moins forte depuis le mois de février.
Emmanuel Macron est arrivé à Bali ce matin pour le G20.
La réunion annuelle des grandes puissances sans Vladimir Poutine qui s'est fait représenter. Et la rencontre la plus attendue, c'est peut-être celle qui a lieu actuellement, Bénédicte Tassard, entre Joe Biden, le président américain, et son homologue chinois, Xi Jinping.
Oui, chacun va expliquer ses lignes rouges selon Washington et Pékin, et elles sont nombreuses. Les deux hommes ont dégagé 4 heures sur leur emploi du temps pour se parler. C'est énorme, 4 heures sur un sommet de 2 jours. Deux gros sujets de discussion. Taïwan d'abord. La Chine accuse les États-Unis de dénaturer le principe fondamental d'une Chine unique. Joe Biden, lui, se dit prêt à l'implication militaire en cas d'invasion de l'île par Pékin. Une guerre est possible sur le secteur. Et puis il y a l'Ukraine, la Chine, tout comme la Turquie, l'Inde ou le Brésil, refusent de condamner l'invasion russe. Mais la Maison-Blanche ne constate pas de livraison d'armes chinoises à Vladimir Poutine. La semaine dernière encore, Joe Biden était plutôt confiant. Je ne pense pas que la Chine ait beaucoup de respect pour la Russie ou pour Poutine. Elle préserve ses distances. En tout cas, Pékin ne veut pas être obligé de choisir. Il va falloir que les deux hommes trouvent les moyens de faire baisser les tensions.
Bénédicte Tassara Bali pour RTL. Volodymyr Zelensky, lui, s'est rendu à Kherson ce matin. Le président ukrainien qui a entonné l'hymne national que vous entendez dans cette ville reconquise aux forces russes.
Philippe s'enfourche pour la dernière fois dans notre studio puisqu'il va s'envoler pour le Qatar ces prochaines heures. Bonjour Philippe, quelle chance
bonjour,
vous avez.
En même temps que les joueurs, mercredi matin.
Bah, vous faites un peu partie du staff, permettez-moi de le dire comme cela. Et à l'avant-veille du départ au Qatar, pour le Qatar, voilà Didier Deschamps contraint de modifier sa liste après un nouveau coup dur.
Ah oui, le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, est forfait, insuffisamment remis de sa blessure au tendon d'Achille. Ce matin, Didier Deschamps a donc convoqué, non pas un, mais deux nouveaux joueurs, Philippe.
Ah oui, c'est un peu branle-bas de combat à Clairefontaine. Alors vous l'évoquiez à l'instant, c'est un vrai coup dur pour Didier Deschamps, un nouveau, puisqu'après N'Golo Kanté et Paul Pogba, le forfait de Presnel Kimpembe est le troisième d'un véritable titulaire, hein, le défenseur du PSG, 28 sélections en bleu, qui avait pourtant rejoué un bon quart d'heure hier avec le PSG, mais il a échangé longuement ce matin avec le médecin des Bleus, Franck Le Gall, puis avec Didier Deschamps. Il n'a pas voulu tricher, Presnel Kimpembe, mentir sur son ressenti. Le coup près donc tombé en fin de matinée. Et c'est le monégasque Axel Dizazi, 24 ans, totalement novice en bleu, qui va le remplacer.
Et c'est...
Oui, je vous en prie.
la liste de Didier Deschamps grimpe finalement à 26 joueurs, Philippe, parce que le sélectionneur appelle aussi un nouvel attaquant.
Oui, alors là, c'est en plus des 7 joueurs offensifs déjà convoqués mercredi dernier. Marcus Thuram, le fils de Lilian, attaquant de Mönchengladbach en Allemagne, qui fait son grand retour en bleu. On ne l'avait plus revu depuis le dernier Euro. Alors la question est évidemment de savoir pourquoi cet appel de dernière minute et pas mercredi dernier. Y a-t-il encore trop de doutes autour de l'état de forme de Karim Benzema? Le sélectionneur de nous en dire un petit peu plus à 16h en conférence de presse cet après-midi, mais il faut malheureusement se préparer à de nouveaux impondérables.
Dizazi qui ne sera pas dans le métro, que le plus grand public ne connaît pas encore, sans doute, mais j'observe que Kimpembe, N'Golo Kanté et Pogba, c'est 3 joueurs à vocation défensive, et ça pour Didier Deschamps, c'est ennuyeux.
Tout à fait, c'est toujours là-dessus que se fait la différence dans les grandes compétitions.
Vous partez quand? Mercredi donc.
Mercredi matin, en même temps que les joueurs, pas dans le même avion.
Donc à chaque fois qu'on se parlera, ça dure pendant un mois, pendant les auditeurs ou pendant notre journal, vous serez là-bas.
À distance, avec
Nicolas Jargerot, bien évidemment.
Nous conserverons la même chaleur humaine.
Et vous commenterez tous les deux avec Nicolas Jargerot, puisque vous formez un couple désormais célèbre.
Tout à fait.
Et bien écoutez, bonne Coupe du Monde. Et solide. Bonne Coupe du Monde.
La météo, on vous retrouve Louis Baudin pour le retour de la pluie, donc cet après-midi.
C'est ça, la pluie qui en ce moment se trouve sur l'Aquitaine, le Limousin, remonte vers la vallée de la Loire qui cet après-midi arrivera sur l'île de France, le Massif central. Il y en aura aussi dans le Languedoc-Roussillon et puis près des frontières de l'Est en toute fin de journée, voire la nuit prochaine. À l'arrière, on retrouvera quelques éclaircies mais avec encore des averses. Il n'y a que la Corse qui restera un peu à l'écart de cette dégradation. Les températures, alors elles baissent mais elles sont toujours au-dessus des moyennes de saison, 13 à 15 degrés dans la moitié nord et 15 à 19 degrés dans le sud, où on restera pour la première fois depuis très longtemps bloqué sous les 20 degrés.
Merci beaucoup Louis.
Dans un instant, on parle de Cyril Hanouna
et de Louis Boyard. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. Lidl. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
On aime ou non Louis Boyard, on partage ou non ses idées, il reste un élu représentatif de la population. Il a donc le droit de s'exprimer comme il l'entend et on n'a pas, certainement pas, à l'insulter ou à l'injurier. Là-dessus, je suis extrêmement clair.
Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui a réagi à l'accrochage opposant Louis Boyard, député LFI, et Cyril Hanouna, le présentateur de l'émission Touche pas à mon poste jeudi dernier sur C8. Un accrochage après les propos du député évoquant des ennuis judiciaires de Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Canal+, et donc par conséquent celui de la chaîne qui diffuse TPMP.
Oui, c'est pas des ennuis judiciaires. Boyard disait, attaquait précisément le Vincent Bolloré en disant il a déforesté le Cameroun.
Il parlait d'une affaire judiciaire dans laquelle Bolloré était attaqué, effectivement. Pour en parler avec nous, Laurent Marsic, spécialiste.
Et il n'était pas venu du tout pour ça, Louis Boyard. Il était venu pour parler des migrants.
Si ça vous fait rien, on y vient, Pascal.
Alors je précise que, comme je suis dans le groupe Canal+, forcément, je ne vais pas trop parler sur ce sujet, parce que je suis plutôt solidaire avec l'ami Cyril Hanouna. Et d'ailleurs, c'est intéressant son tweet, puisque lui-même regrette d'avoir insulté, c'est ce qu'il dit.
Pour tous ceux qui n'auraient pas vu encore cette scène, qui tourne beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux depuis jeudi soir. Laurent Marcy, vous êtes spécialiste télé. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à l'antenne jeudi ?
Effectivement, jeudi soir, ce soir-là, Cyril Hanouna souhaitait débattre avec ses chroniqueurs et le député LFI, Louis Boyard, ex-chroniqueur de l'émission, de l'accueil du bateau de migrants au Océan Viking. Et puis assez rapidement, le ton est monté entre l'animateur et le député. Louis Boyard a accusé les 5 personnes les plus riches de France, dit-il, d'appauvrir l'Afrique en citant, effectivement, comme vous disiez, en citant Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8, abruti, bouffon, tocard et une merde, lui a alors lancé Cyril Hanouna, extrait mixage.
J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti.
T'es où sur le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants?
Tais-toi, vas-y. Tu prenais ton cachet, tu faisais le malin.
Mais alors, toi,
t'es une merde. Toi, t'es une merde.
J'ai le droit de critiquer Bolloré.
Mais t'as le droit de critiquer qui tu veux. Et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze.
9 minutes d'invective et 4 secondes. Le député a fini par quitter le plateau. On l'a entendu sous les huées du public. Jusqu'à hier soir, effectivement, Cyril Hanouna s'était contenté de relayer les messages de soutien qu'il recevait sur les réseaux sociaux. Et il a, comme vous le disiez, posté ce message hier. La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté. C'est pas un bon exemple.
Alors évidemment, quand on entend le montage comme ça, on a envie de ne pas défendre Cyril Hanouna. Mais ce qu'il faut dire...
Non, mais ça crie beaucoup entre...
C'est que M. Bouillard, à 5 ou 6 reprises, il parle de Vincent Bolloré. Et on comprend en fait qu'il est venu pour ça. Et c'est ça qui a énervé Cyril Hanouna, c'est-à-dire qu'il instrumentalise sa présence pour le plateau pour parler d'un autre sujet pour lequel il n'est pas venu du tout. Nous sommes d'accord.
C'était dans sa démonstration, si on écoute ce qu'il dit, hein, exactement.
Laurent, il y a donc eu saisine de l'ARCOM, l'ex-CSA, le gendarme de l'audiovisuel.
Oui, alors comme ils le font à chaque fois qu'un ou plusieurs téléspectateurs signalent une séquence dérangeante sur la plateforme de l'ARCOM, il y a une procédure qui est très variable, elle peut prendre quelques jours comme ça peut prendre plusieurs mois. Dans un premier temps, en fait, ils vont visionner, décortiquer toute la séquence. Ensuite, s'il y a matière à instruction, ils transmettent ça à un rapporteur indépendant, en l'occurrence, c'est le président de la 10e chambre de la séquence du contentieux au Conseil d'État, il s'appelle Bernard Acosta. C'est une chambre spécialisée dans les litiges sur la culture notamment. Lui rend un avis, une recommandation, puis c'est discuté en séance plénière à l'ARCOM avec tous les conseillers et là, ils peuvent décider d'une sanction ou non. Il y a une échelle qui est très large pour les sanctions. Ça peut aller du simple rappel à l'ordre, en passant par la mise en demeure. Ça peut aller aussi, c'est déjà arrivé en 2017 pour Cyril Hanouna, lors d'une blague homophobe qui avait été faite sur le plateau, la suspension de séquences publicitaires, ce qui est pour le coup une sanction pécuniaire. L'ultime sanction, c'est le retrait d'autorisation d'émettre. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, mais pas du tout dans ce cadre-là. C'était pour la chaîne numéro 23. On était vraiment dans un autre domaine.
Avec vous, Laurent, il y a William Galibert du service politique. William, on voulait vous parler aussi, puisque les politiques, on a entendu Olivier Véran, ont été nombreux à réagir, et que LFI demande même une commission d'enquête parlementaire.
C'est ça, sur les ingérences de Vincent Bolloré dans les médias qui lui appartiennent. Mais d'ailleurs, il y a déjà eu une commission d'enquête au Sénat sur la concentration des médias. C'était un peu plus large, mais Vincent Bolloré a été auditionné. C'était il y a quelques mois. Une liste d'une trentaine de recommandations a été faite. Eh bien, ça fait 6 mois que ces recommandations prennent tranquillement la poussière sur les étagères du Sénat. Donc, on va voir si LFI va activer cette commission parlementaire. On va voir aussi si Louis Boyard veut porter plainte contre Cyril Hanouna ou si le procureur se saisit de la question pour injures, notamment envers un élu. Il y a ce qu'on appelle les injures publiques d'un côté. Et quand vous insultez un élu, on peut aggraver les sanctions. C'est depuis le Covid, le ministère de la Justice a fait passer une circulaire aux procureurs pour leur dire de ne rien laisser passer sur ce plan-là. Ça s'appelle un outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et ça peut monter jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Il y aura une conférence de presse à 14h30 de Louis Boyard. Donc on en saura sûrement un peu plus sur ce que compte faire LFI.
Et c'est intéressant d'écouter ce qu'a dit Cyril Hanouna sur Twitter. « Mes chéris, je suis entier, loyal, sincère et je serai toujours moi-même à l'antenne comme cela. Je suis sanguin et vrai comme certains politiques. La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté. C'est pas un bon exemple. »
C'est ce qui lui sera reproché.
On peut tous être d'accord, quoi qu'il arrive. On n'insulte pas la personne avec qui on parle.
Bah ça, ne pas insulter, on est tous d'accord, Pascal.
Non, mais Cyril lui-même le reconnaît, manifestement.
Oui, c'est sur ça qu'ils peuvent l'accrocher.
Et merci. C'est ça qui fait débat.
Merci beaucoup à tous les deux, Laurent, William, d'être venus revenir sur ce...
On va interroger les auditeurs tout à l'heure. Je vous ai coupé la parole, pardonnez-moi.
Vous m'insultez pas, c'est déjà ça.
On va interroger les auditeurs, même si je le répète... Je suis dans un groupe qui est détenu par Vincent Bolloré. Donc forcément, on peut considérer que ma parole n'est pas forcément objective, mais j'ai quand même envie de défendre Cyril Hanouna, bien sûr par solidarité, mais pas que solidarité professionnelle, puisque lui-même reconnaît qu'on n'insulte pas. Et il a évidemment raison. Il est 12h51, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Avant de parler de la cravate avec Monique Younes, Paul Naref revient.
Le chanteur annonce une nouvelle tournée à partir du mois de mai. Tournée avec une première partie piano-voix.
On va faire le piano-voix. Alors je me pose déjà la question en me disant, mais est-ce qu'on peut tenir toute une soirée avec du piano-voix? Je ne sais pas. Ça va être une expérience différente, puisque quand vous rentrez avec une rythmique qui vous porte, d'y aller tout seul, bon, ça change un peu les données.
Il y a quand même une grande nouveauté, c'est qu'il y aura une scène centrale.
C'est intéressant, j'espère que ça ne va pas tourner trop vite et que je ne vais pas devenir un micro-ondes.
Est-ce que vous vous dites, la tournée qui va démarrer, c'est peut-être la dernière?
C'est possible, oui. C'est possible, mais je le pense à chaque tournée, hein. Depuis la première.
Michel, pour promouvoir cette nouvelle tournée, super idée de votre producteur, je crois, de ressusciter l'affiche de Polnareff Révolution, qui célèbre aussi ses 50 ans cette année. Vous n'avez pas voulu refaire la photo avec vos fesses d'aujourd'hui, Michel?
J'y ai pensé, mais j'ai décidé de m'asseoir dessus.
Ça va être un événement considérable. Il montrait ses fesses pour l'Olympia, peut-être? Et dans la France des années 70, la France pompidolienne. C'était un outrage.
Michel Polnareff qui était avec Steven Bellery. On y reviendra vendredi sur RTL puisque ce sera le jour de la sortie de son album Polnareff chante Polnareff. Polnareff qui porte assez peu la cravate. Lui, c'est plutôt chemise entrouverte. Hein. Monique Younes, oui. Bonjour. De manière générale, de toute façon, aujourd'hui, la cravate, les hommes la délaissent,
sauf Pascal.
Et ce sont les femmes qui s'y mettent.
Mais oui, et toutes les marques, cette saison, ont des cravates pour femmes dans leur collection. Des cravates noires, étroites, par exemple chez H&M à 9 euros. Des cravates colorées, fleuries, rayées, larges, longues ou courtes. Chez Kenzo, Gucci ou Louis Vuitton. Et là, elles vous coûteront entre 135 et 305 euros. Elles sont portées de différentes manières. Effectivement, tout simplement sur des chemises, certes, mais aussi elles sont glissées dans des robes bustiers. Elles viennent orner un décolleté plongeant.
Ou bien à même
ressusciter,
le coup.
Oui, à même le coup, monsieur. Ou bien ressusciter l'uniforme de la jeune écolière avec une mini-jupe plissée, des chaussettes hautes. C'est fou quand on s'y penche le nombre de messages différents que véhicule le port d'une cravate féminine. Vous vous souvenez peut-être des députés NUPES, les femmes députées qui sont arrivées comme un seul homme, toutes cravatées à l'Assemblée nationale, c'était en juillet dernier, pour protester contre des élus de droite qui voulaient exiger le port de la cravate dans l'hémicycle. Eh bien, elles ne sont pas les seules à porter la cravate comme accessoire contestataire. Avant-hier, samedi, des membres de l'association Oxfam, qui est, comme vous le savez, un mouvement citoyen qui lutte contre les inégalités, dansaient, cravataient devant la bourse de commerce, c'était rue de Rivoli à Paris, sur le tube du groupe ABBA.
Pour dénoncer l'impact des banques dans le réchauffement climatique. Et donc là, on vient de faire un flash mob et on était déguisés en banquiers avec une chemise blanche, une cravate. Donc la cravate, c'était un peu la manière d'illustrer le banquier.
Mais Monique, depuis quand les femmes portent la cravate ?
Vous savez, ça date du XVIIIe siècle. À cette époque, quand une femme de la haute voulait paraître très très sophistiquée, elle nouait une cravate autour du cou. C'était généralement un large ruban en soie noire ou en dentelle. Et au XIXe, la cravate devenait un signe d'émancipation. Comme des femmes comme George Sand ou plus tard Colette, au début du XXe, la portaient. Dans les années 20, avec la mode des garçons, les femmes utilisaient la cravate comme accessoire de séduction ou d'identification sexuelle. C'est-à-dire, je porte une cravate pour bien signifier que j'aime les femmes. Et Coco Chanel va donner à la cravate un côté très, très glamour, très couture. Mais la star qui a le mieux porté la cravate dans les années 30, c'est...
Marlène Dietrich, une belle,
énigmatique. Alors quand elle débarque, vous devez voir ses photos du transatlantique pour promotionner le film L'Ange Bleu à Hollywood. Elle est en tailleur, pantalon, cravaté. C'est elle qui a lancé la mode des cravates aux États-Unis. Chaussures plates, un manteau jeté sur les épaules. Elle était entourée d'hommes, mais c'était elle qui régnait. Elle véhiculait quelque chose à la fois d'original, de sexuel, de dangereux, un peu voyou.
Et oui,
même.
Un peu. Hein. Il y a du sexe dans
c'est
la cravate
fou,
portée par
c'est
une femme.
C'est une puissance.
Bien
hein
sûr. Dans les années 70, une femme cravatée, c'est plutôt rock.
Oui, par exemple, Patti Smith, qui va poser en 1975 pour la jaquette de son disque Horses, en cravate dénouée. Mais ensuite, dans les années 80, la femme cravatée était le symbole d'une femme puissante. On se souvient des vêtements imaginés par le couturier Thierry Mugler. Veste ceinturée, épaules larges, jupe crayon, col fermé et cravate. Et depuis, la cravate apparaît occasionnellement. Elle a des fans comme Madonna, Julia Roberts, Sofia Coppola, Kate Moss. Elle donne une image multiple de la femme, tantôt fashion victime, tantôt intellectuelle, tantôt dominatrice, ambiguë, androgyne, décalée, séductrice. Mais si les femmes s'emparent, messieurs, de la cravate pour devenir des hommes, en la portant autour du cou, en turban, en ceinture, elles en sont encore plus femmes, Pascal, croyez-moi.
Et vous, vous la portez en bijoux, cette cravate. Voilà. Merci beaucoup, Monique Younes.
Merci. Dans quelques minutes, vous allez prendre la parole et pourquoi pas donner votre avis sur ce sujet. À tout de suite.
RTL Midi.
Tu sais pour ta...
RTL.
On est un poil en retard, mais c'est pour la bonne cause. Il est 13h02.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La Coupe du Monde commence à la fin de la semaine et pour nous, elle commence dès aujourd'hui et tous les jours à 7h-là, vers 13h03, 13h04. Quel plaisir de retrouver celui avec qui nous nous sommes battus quasiment tous les soirs dans le samedi soir de match pour les grands multiplex. Ne serait-ce pas Christian Olivier qui est là ?
Bonjour Pascal.
Mais ça me fait vraiment plaisir de vous voir parce qu'on s'aime tellement tous les deux qu'ils ont décidé qu'on poserait une question tous les jours et qu'on allait, comme on est d'accord à peu près sur rien, on allait s'engueuler tous les jours sur une question.
C'est le retour des Muppet Show.
Bah, oh, je vous en prie, parlez pour vous. Bon, et la question du jour, ce sera quoi ?
Ah ben, la question du jour, c'est le mondial est controversé, la Coupe du Monde est controversée, est-ce que l'équipe de France doit prendre position ?
Donc c'est vous le chef de la question que vous soumettez. Je on en parle ensemble avec, avec les auditeurs.
Oui,
bien
on
sûr.
Suggère cette question aux auditeurs, bien évidemment.
Et regardez comme on est délicat. Rien que pour vous, vous savez comment s'appelle le premier auditeur ?
Non.
Christian. Christian qui habite Narbonne. Bonjour Christian.
Bonjour à tout le monde. Bonjour
pourrez,
Christian.
Bonjour Christian.
Bonjour Pascal.
Vous pourrez nous écouter et j'allais dire vous trancherez parmi les arguments de l'un et de l'autre. C'est ça qui nous intéresse, Christian.
C'est déjà tout tranché.
Ah bon, bah alors ça c'est un arbitre. On va appeler la VAR. Alors si l'arbitre central a déjà pris sa décision, je demande la VAR. Il est 13h03, le rappel des titres avec Céline.
La France et le Royaume-Uni ont signé ce matin un nouvel accord de coopération pour lutter contre l'immigration illégale. Les Britanniques mettront 72 millions d'euros sur la table pour que les Français renforcent les contrôles, 350 policiers et gendarmes de plus. Ce sera très difficile de faire des analyses médicales dans les jours qui viennent. 95% des laboratoires sont en grève, au moins jusqu'à mercredi. Ils protestent contre l'adoption du budget de la Sécu qui leur demande d'économiser 250 millions d'euros. Nouveau coup dur pour Didier Deschamps, Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG, est forfait pour le Mondial, pas suffisamment rétabli après une blessure à un tendon d'Achille. Didier Deschamps appelle le monégasque Axel Disasi pour le remplacer et les Bleus partiront finalement à 26 puisque Marcus Thuram, l'attaquant, est également convoqué. Emmanuel Macron lui confie à RTL qu'il ira au Qatar soutenir les Bleus, mais seulement s'ils atteignent les demi-finales. Et puis vous allez apprendre à les connaître. Pendant 2 ans, les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été dévoilées. Leur petit nom qui plaît beaucoup à Pascal Pro, les friges, des mascottes en forme de...
Mais en anglais, c'est marrant parce que the fridge, c'est quoi ? C'est le réfrigérateur ?
Exactement.
Donc les Anglais vont dire... Non, elle, c'est très étonnant, the fridge.
Elle ressemble plus à des bonnets phrygiens.
Hein, oui, bien
nom.
Sûr. Mais d'ailleurs, la mascotte est réussie, mais c'est vrai que ce nom est les friges...
Ça vous plaît pas ? On a compris.
C'est un nom qui n'existe pas. Donc c'est...
La météo, Louis Baudin, elle existe, elle, pour cet après-midi.
Oui, elle existe.
Et c'est avec de la pluie.
Et la pluie aussi existe. Hein. Elle fait son retour aujourd'hui, déjà dans l'ouest, mais elle va traverser toute la France, là, au cours de l'après-midi. Cet après-midi, où elle arrivera sur l'île de France, le massif central, sur les régions du nord, puis près des frontières de l'est, ça sera plutôt dans la soirée ou la nuit prochaine. Beaucoup de pluie étendue également du côté du Languedoc, dans la basse vallée du Rhône. Et puis après le passage de ces pluies, on aura un petit répit avec quelques éclaircies et des averses un peu plus espacées. Les températures entre 13 et 15 degrés dans la moitié nord cet après-midi, ça baisse un peu, mais ça reste au-dessus des moyennes de saison et 15 à 19 degrés dans la moitié sud.
Et demain, Louis ?
Eh ben, faut s'y faire parce que demain, il y en a une autre. Il y a à peu près une perturbation par jour. Alors, ça, il pleuvra pas toute la journée. C'est une demi-journée de pluie, une demi-journée d'éclaircie et ainsi de suite. Et puis, ça va alterner comme ça jusqu'au week-end prochain inclus. Donc, vous voyez, on a beaucoup de pluie attendue ces prochains jours, la neige en montagne, du vent parfois dans la moitié nord et des températures qui vont commencer à fraîchir, notamment en deuxième partie de semaine. C'est bien ?
C'est bientôt l'hiver.
C'est bien quand il fait froid bien, l'hiver et chaud l'été. Merci voilà. Cher Louis, merci beaucoup. Merci également à Céline. Merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Et donc nous partons avec l'ami Christian Olivier. C'est la première question. On va avoir des questions pendant un mois. Générique jingle.